É que eu nasci lá. E eu faço tanto a ganhar na roupa. Feliz, feliz, tô pago. Sa parola, abatiu o derby. La terra entera, verá que a gente eu tô com desespero.
Aleluia, nosso Senhor. Le nom de notre Seigneur soit béni. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être béni éternellement. Alléluia. Nous l'avons béni et il veut nous bénir aussi maintenant au travers de sa parole. Et j'aimerais qu'on voit un sujet toujours très important pour les chrétiens. Car ce sujet doit être constamment renouvelé fraîchement à nos cœurs et à nos pensées. Ce sujet est le sujet de la Sainte Cène. J'aimerais revenir encore là-dessus, car la Sainte Cène est quelque chose de très précieux. Et comme nous prenons la communion tous les dimanches, il est bon de réaliser parfois ce qu'est la Sainte Cène. Parce que nous pouvons prendre la Sainte Cène machinalement, sans en réaliser toujours plus la profondeur et la réalité. Et je crois que tout chrétien devrait toujours bien se rappeler ce qu'est la Sainte Cène. Bien sûr, nous ne pouvons pas tout voir, n'est-ce pas? C'est tellement profond. Mais il nous faut, chaque fois que nous nous approchons de cette communion, réaliser ce que nous faisons. Et surtout ne pas prendre cette communion machinalement, automatiquement, par routine, dimanche après dimanche. Nous risquons de tomber dans une routine sans nous en rendre compte même ce qu'on fait. N'est-ce pas vrai? Cela peut nous arriver. Sans qu'on s'en rende compte. C'est pourquoi le Seigneur a donné cette Sainte Cène, pour qu'on se rappelle justement de lui et de beaucoup, de plusieurs choses. Ce serait terrible que nous prenions cette Sainte Cène sans se rappeler les vérités qu'elle contient, alors que cette Sainte Cène a été donnée justement pour que constamment, à notre mémoire et à nos cœurs, certaines vérités soient implantées en nous-mêmes. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. La Sainte Cène, un examen personnel. La Sainte Cène est un examen personnel. Et nous allons lire ce passage que vous connaissez tous bien, mais il est bon de nous y attarder ce matin ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 11, 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, verset, on peut lire déjà, à partir du verset 20, voyez-vous, justement, l'apôtre Paul donne des instructions aux Corinthiens, précisément concernant la Sainte Cène. Et il leur dit, au verset 20, « Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire ? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. » Vous voyez, la tentation est là de prendre la Sainte Cène indignement.
indignement.
Alors, il continue maintenant, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. » Et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Donc, nous voyons que l'apôtre Paul avait très à cœur que les Corinthiens et que les chrétiens de la première église célèbrent cette sainte cène dignement. Et je crois que cette exhortation s'adresse encore à nous si nous voulons en retirer toujours toute la bénédiction qu'il faut. Car la tendance peut être là quand nous prenons quelque chose régulièrement, la tendance est là de ne plus réfléchir à ce que nous faisons, n'est-ce pas vrai? C'est une grande tentation. Ou alors, nous ne pensons qu'à certaines choses lorsque nous prenons la Sainte Cène et nous ne voyons pas l'ensemble des vérités que nous devons percevoir. Alors j'aimerais vous donner brièvement ce matin quelques vérités qui pourront toujours se rester gravées en nous. Et que chaque fois que nous prenons la Sainte Cène, eh bien, que nous puissions penser à ces vérités. Donc la Sainte Cène, nous le voyons ici, d'après les textes, est vraiment un examen personnel. C'est un examen personnel. Et alors, pour prendre dignement la Sainte Cène, nous avons besoin de regarder dans quatre directions différentes. Quatre directions différentes lorsque vous prenez la Sainte Cène. Rappelez-vous bien de cela. Chaque fois que vous vous approchez pour prendre le pain et le vin, nous devons regarder dans quatre directions différentes. Premièrement, je vais vous donner les quatre, et ensuite nous les méditerons un petit peu ensemble. Premièrement, nous avons besoin de regarder derrière nous. Derrière nous, la croix où Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous avons besoin de regarder derrière nous. Deuxième regard, nous avons besoin de regarder en nous. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Nous avons besoin de regarder en nous. Troisième regard, nous avons besoin de regarder autour de nous, autour de nous. Et dans 1 Corinthiens 10, 17, il est dit, « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. » Quand nous prenons le pain et le vin, nous ne sommes pas seuls, nous sommes plusieurs. Nous devons donc regarder autour de nous. Et quatrième regard, nous devons regarder devant nous. Jésus lui-même a dit, « Chaque fois que vous prenez ce pain et ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Autrement dit, nous devons avoir le regard devant nous, avoir sous nos yeux le retour du Seigneur. Amen. Voyez-vous donc, il y a quatre pensées importantes, toutes simples finalement, mais importantes. Sinon, vous avez vu, il y a des conséquences, Paul lui-même le dit. C'est pourquoi parmi vous, certains sont malades, certains ont ceci et cela. Voyez-vous, ce n'est pas sans conséquences. C'est pourquoi nous ne devons jamais prendre la Sainte-Cène à la légère. C'est un examen personnel. Si nous prenons cela comme Dieu le veut, comme un examen, alors cet examen nous amènera la bénédiction du Seigneur. Amen. Si nous ne nous examinons pas, alors cela amènera le jugement du Seigneur. Mais Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. Et c'est ce qu'il veut nous demander ce matin encore. Comment prends-tu la Sainte-Cène? Premièrement, nous avons besoin de regarder derrière nous. Et là, donc 1 Corinthiens 11, 24, il est bien dit ceci, « Faites ceci en mémoire de moi. » Et alors au verset 23, il est dit aussi, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseignais, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, voyez-vous, il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Faites ceci en mémoire de moi. Autrement dit, chaque fois que nous prenons la Sainte Cène, le pain et le vin, nous devons nous rappeler le sacrifice de Jésus pour chacun d'entre nous. Ce sacrifice parfait. Nous devons toujours et toujours réaliser combien le prix a été grand pour nous racheter, n'est-ce pas vrai? Vous avez été rachetés à un grand prix. Le salut est gratuit, mes amis, mais il n'est pas bon marché. Il est gratuit, mais il n'est pas bon marché. Nous avons été rachetés à un grand prix. Le Sauveur a dû quitter son ciel de gloire. Lui, le Saint, l'innocent, le pur, celui qui était sans tache, celui qui n'avait jamais eu la moindre pensée mauvaise, celui qui avait toujours vécu avec son Père céleste dans une communion parfaite, celui qui avait toujours réjoui le cœur de son Père céleste dans la lumière, dans la pureté, dans une communion parfaite, dans une félicité éternelle, celui qui était saint a dû venir sur cette terre. Et lorsque sur la croix, déjà avant la croix, à Gethsémané, lorsque déjà il entrevoyait que les péchés du monde allaient venir sur lui et que le jugement de Dieu allait tomber sur lui, alors il y a eu quelque chose qui s'est manifesté en lui. Il a dit à son Père, « Ô Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais cependant, non ma volonté, mais ta volonté soit faite. » Et à trois reprises, il s'est jeté par terre et il a eu comme des grumeaux de sang qui coulaient de son front. C'est quelque chose que nous ne pouvons comprendre. Lui, le Saint, dans quelques heures, allait porter les péchés de l'humanité entière. Ton péché. Et alors là, entrevoyant cette réalité, il y a eu quelque chose en lui. Ô Père, je n'ai jamais touché le péché. Je n'ai jamais rien fait de mal. J'ai toujours cherché à faire ce qui te plaisait. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Et là, le fait même de penser que le péché, il allait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, c'est quelque chose qui l'a rempli d'une crainte intérieure. Tellement il était saint, il ne pouvait entrevoir cette possibilité. C'était quelque chose de terrible. Vous savez, Jésus a non seulement souffert physiquement, et les souffrances de la croix sont terribles, n'est-ce pas? La crucifixion était le supplice le plus affreux que l'on puisse infliger à un criminel, à un bandit. Mais la plus grande souffrance n'était pas une souffrance physique. Il y avait aussi une autre souffrance à la croix, c'était les souffrances, la souffrance morale. Quand il était sur cette croix, il était abandonné des siens. Tous ceux qui l'ont aimé ce jour-là ont disparu de la circulation. Au moment où il avait le plus besoin de ses amis, tous ses amis l'ont abandonné. Quelle souffrance morale! Quand au moment où vous avez besoin de quelqu'un et que cette personne vous fait défaut, quelle souffrance, n'est-ce pas vrai? Il y avait cette souffrance morale dans le cœur de Jésus. Tous m'ont abandonné. Mais la plus grande des souffrances n'était pas la souffrance, ni la souffrance physique, ni la souffrance morale. La plus grande souffrance était la souffrance spirituelle. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et vous le savez comme moi, lorsque Jésus s'était crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu, son Père, à ce moment-là, a dû détourner son visage de lui. Parce qu'à ce moment précis, Jésus portait sur lui les péchés de l'humanité entière, ton péché et mon péché. Et il en subissait la punition et le jugement et la condamnation. Et c'est pourquoi il s'est écrit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jamais nous ne comprendrons ce qui s'est passé à ce moment-là. À ce moment-là, il a vraiment vécu, goûté l'aurore même de l'enfer. C'était l'enfer, car l'enfer, c'est la séparation de Dieu. Et Jésus a goûté l'enfer de la séparation avec Dieu, afin que toi, tu goûtes les plaisirs de la communion avec Dieu, et que plus jamais, jamais, tu ne goûtes les douleurs et les tourments de l'enfer. Amen. Vous avez été rachetés à un grand prix, dit l'apôtre. C'est pourquoi glorifiez Dieu dans votre esprit et dans votre corps qui appartiennent à Dieu. Un regard en arrière, il est bon de nous rappeler. Je lisais ce matin, quelqu'un un jour a eu un rêve, comme un rêve. Et dans ce rêve, il voyait justement qu'un soldat romain était en train de fouetter le Seigneur. Et alors là, quand il voyait le soldat romain lacérer littéralement le dos du Seigneur avec ce fouet, il était là, rempli d'une colère. Et alors, à un moment donné, quand le soldat romain, de nouveau, s'apprêtait à lacérer le dos du sauveur, il s'est approché de lui, et pour l'arrêter. Et au moment où il s'approchait de lui, le soldat s'est tourné. Et quand le soldat s'est tourné pour le regarder, cet homme a reconnu dans le soldat son propre visage. C'était son propre visage. Et là, tout à coup, il a compris que c'était ses péchés qui avaient fait souffrir le Seigneur. Et cet homme, déjà, quelques jours avant d'avoir ce rêve, il était tourmenté par cette conviction de péché. Et Dieu lui a donné ce rêve pour qu'il réalise que c'est à un grand prix que nous avons été rachetés. C'est ton péché, mon péché, qui a crucifié le maître, qui a fait souffrir le maître. Et quand nous comprenons cela, alors, nous n'avons qu'une attitude, qu'une seule attitude valable aux yeux de Dieu, c'est de haïr notre péché ensuite. Amen. Quelqu'un qui dit croire au sacrifice de Jésus et qui encore vit dans le péché comme avant, il n'a rien compris au sacrifice de la croix. La conséquence, la seule conséquence valable aux yeux de Dieu, c'est de réaliser que mon péché l'a crucifié, l'a fait souffrir, et que désormais, je veux haïr mon péché et changer de vie et vivre une vie qui le glorifie. Amen. Lorsque tu prends la Sainte Cène, regarde derrière toi le prix que ton Sauveur a dû payer. Il est bon de nous en rappeler, mes amis. En regardant derrière aussi, il y a une deuxième chose dont nous devons nous rappeler. C'est justement le jour où nous nous sommes convertis au Seigneur. Car ces deux choses vont toujours ensemble, n'est-ce pas? Il est mort pour qui? Pour nous, pécheurs. Et il est bon de se rappeler, bien sûr, premièrement, les souffrances de Jésus, la mort expiatoire de Jésus, ses souffrances physiques, morales, spirituelles. Son visage était déformé. Nous pourrions lire Ésaïe 53. Il était l'homme de douleur, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Il était méconnaissable, le maître. Je crois que pendant sa vie, il était le plus beau des fils de l'homme. Personne n'était comparable à lui. Sa beauté est incomparable. Sa beauté est morale, spirituelle, physique, incomparable. Vous ne pouvez pas comparer Jésus à quelqu'un d'autre. Mais lorsque Jésus est mort sur la croix, physiquement, il était tout déformé. Toute beauté avait disparu. La couronne d'épines, les coups qu'il avait reçus, la douleur, tout cela a complètement déformé son être tout entier à cause de ton péché et de mon péché. Nous ne devons jamais oublier cela, mes amis. Et nous voyons là l'amour qui s'est sacrifié pour nous. L'amour qui a versé son jusqu'à la dernière goutte de son sang pour chacun d'entre nous. Que jamais nous n'oublions Golgotha. Et à cet amour intense, si ardent, si complet, qu'en retour notre amour soit toujours plus intense, réel et profond. Amen. Et c'est pourquoi nous devons nous rappeler aussi le jour où nous nous sommes convertis, pour que nous puissions aussi prendre la Sainte Cène dignement. Seigneur, tu as payé un grand prix à moi, pour moi, pauvre pécheur. Je me rappelle le jour où tu t'es donné pour moi. Te rappelles-tu le jour où tu t'es converti? Rappelle-toi, il est bon de se rappeler. L'apôtre Pierre, dans son épître, dans la deuxième épître, au chapitre premier, je ne sais plus le verset exactement, mais il dit, il fait comme un reproche à ceux qui ont oublié la purification de leurs anciens péchés. Ils ont oublié cela. Et c'est pourquoi ils ne pouvaient pas vivre une vie chrétienne victorieuse. Nous ne devons jamais oublier ce que Dieu a fait pour nous. Rappelle-toi le jour où tu t'es converti. Rappelle-toi afin que ta flamme grandisse toujours plus. Et que ton amour soit toujours intact pour ton Sauveur. C'est cela, prendre la Sainte Cène. C'est nous rappeler tout ce qu'il a fait pour nous. Et aussi nous rappeler le jour où nous nous sommes convertis au Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi il est bon, mes amis, de nous rappeler cela. Il est bon qu'un chrétien aussi rende souvent son témoignage. Quand il parle aux uns et aux autres, votre témoignage est percutant. Votre témoignage a une puissance. Et je l'ai remarqué moi-même chaque fois que je rends mon témoignage d'une manière ou d'une autre. Il y a comme quelque chose en moi qui est renouvelé. qui est remué. Un chrétien qui ne rend plus son témoignage est un chrétien qui a perdu sa flamme. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Tout nous est dû. Tout nous est dû. Mais lorsque l'on sait d'où le Seigneur nous a sortis, un brisement continuel est en nous. Amen. Un brisement continuel. Rappelle-toi le jour où tu étais brisé au pied de la croix. Rappelle-toi de cela. Et jamais tu ne prendras la gloire de Dieu pour toi. Toujours tu donneras la gloire au Seigneur. Un regard derrière nous. Et mes amis, c'est pourquoi quand on prend la Sainte Cène, nous ne pouvons manquer de prier, de le louer aussi. Amen. Tout chrétien devrait prier quand il prend la Sainte Cène. Tout chrétien. Et se rappeler ce que le Seigneur a fait pour lui. Nos prières devraient toujours fuser, déborder. Alléluia. On devrait vous dire, maintenant tu t'arrêtes, laisse la place aux autres. C'est ça qu'on devrait vous dire. Mais arrête un peu, maintenant. Oui, je vois que tu débordes un peu trop. Ça déborde. Maintenant, tu laisse un peu les autres, laisse un peu aux autres. Voilà, on devrait dire ça à tous les chrétiens. À tous les chrétiens. Alléluia. Rappelons-nous le prix qu'il a dû payer, et rappelle-toi ce que tu étais avant d'être converti, mon ami. Rappelle-toi bien de cela. Nous n'étions rien du tout. Et si nous sommes ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu qui a fait de nous cela. Amen. Et notre amour pour le Seigneur serait toujours plus ardent, intense, renouvelé. Rends souvent témoignage de ta conversion. N'aie pas peur de dire les larmes que tu as versées. N'aie pas peur de dire ce que tu as ressenti, car c'est ce qui touchera les autres. Un témoin, c'est cela. Un témoin, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il a vécu. Amen. Aujourd'hui, en voulant rendre témoignage, nous pensons qu'il faut faire des beaux discours. Et on se dit, parce que je ne parle pas bien, je ne peux pas rendre témoignage. C'est une grave erreur. Être un témoin n'est pas à faire de bons discours. Ce ne sont jamais les beaux discours qui touchent quelqu'un. N'est-ce pas vrai? Jamais. Jamais les beaux discours. Mais c'est notre amour sincère, intense pour le Seigneur. Et c'est une vie vraiment transformée. Gloire à Dieu. Alléluia. Un regard derrière nous. Chaque fois que nous prenons la Sainte Cène, ne l'oublions pas. Renouvelons cela. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Tu as tant fait pour moi. Quel sacrifice. Et je me rappelle aussi le jour où je me suis donné à toi. C'était le plus beau jour de ma vie. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Deuxièmement, un regard, nous devons regarder en nous cette fois. En nous. Il est dit que chacun donc s'éprouve soi-même. Au verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Il y a là maintenant un deuxième regard en nous. C'est-à-dire, le premier regard met en évidence le pardon de Dieu dans notre vie. Et le deuxième regard met en évidence notre sanctification. Le regard en nous, s'éprouver soi-même, c'est comme si le Seigneur disait, il te faut marcher dans la sanctification. Et la pensée est celle-ci ici, si notre vie n'est pas en règle avec Dieu et les autres, il vaut mieux ne pas prendre la Sainte Cène. Donc notre vie doit être en règle avec le Seigneur. Si nous sommes conscients que nous avons fait quelque chose qui a déplu au Seigneur. Nous ne devons jamais prendre la Sainte Cène dans de telles conditions, mes amis. Nous devons toujours nous humilier, demander pardon, et ensuite prendre la Sainte Cène. Je ne parle pas ici de péchés que nous ne connaissons pas, parce que le diable peut nous faire tomber dans une introspection maladive. « Oh, mais moi, je ne prends plus la Sainte Cène parce que je suis toujours en train de demander au Seigneur ce qui ne va pas.
Et puis, je sais pas, alors il y en a qui sont constamment en train de voir ce qui ne va pas en eux. Et puis, le Seigneur ne leur montre jamais, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien du tout. Alors ici, il n'est pas question de tomber dans une introspection maladive, mais le regard en nous, s'éprouver soi-même, c'est lorsque vous savez que vous avez fait quelque chose qui n'était pas bien devant Dieu et que vous ne mettez pas cette chose en ordre, nous prenons le pain et le vin indignement. Indignement. Il faut donc s'éprouver soi-même. Voyez-vous, la Sainte Cène, comme cela, devient une bénédiction et une véritable purification, sanctification de tout notre être. Si vous avez eu le sentiment d'avoir péché par votre regard, si vous avez eu le sentiment d'avoir péché par vos oreilles, parce que vous entendez, ou par vos paroles, parce que vous avez dit, ou par vos mains, parce que vous avez fait, si vous avez le sentiment d'avoir péché contre Dieu, ne nous hâtons pas de prendre la Sainte Cène comme cela. C'est comme un examen aussi. Seigneur, oui, là, il y a eu ça. Qui t'a déplu, je t'en demande pardon. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. C'est pourquoi le chrétien doit vivre constamment dans la lumière. Dès que tu as quelque chose que tu penses qui a déshonoré Dieu, ne le garde pas dans ton cœur. Amène-le à la lumière constamment. Amen. 1 Jean 1,7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Voilà la clé d'une vie chrétienne victorieuse. Moi, au début, quand je m'étais converti, quand j'avais eu le sentiment d'avoir péché devant Dieu, je restais des journées et même des semaines avec ce poids de culpabilité. J'arrivais pas à régler ce problème-là. Alors il fallait que j'attende, je ne sais pas, une convention particulière ou le culte pour me sortir de ce sentiment de culpabilité. Et je vivais donc des heures et des journées sous ce poids-là. Et petit à petit, le Seigneur m'a appris à vivre pas seulement dans la lumière le dimanche matin, mais à vivre dans la lumière tous les jours, à chaque instant de sa vie. C'est-à-dire que à partir du moment où nous sommes conscients que nous avons fait quelque chose de mal, instantanément, nous devons dire, Seigneur, pardonne-moi. Je te confesse ce mauvais regard, cette mauvaise parole, cette mauvaise attitude, je te confesse cela. Purifie-moi si nous confessons nos péchés. 1 Jean 1,9 cette fois. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia! C'est le secret d'une vie chrétienne victorieuse. Trop de chrétiens restent sous un poids de culpabilité. Si tu as le sentiment d'avoir péché, ne reste pas sous ce poids-là. Confesse. Si tu confesses, la Bible dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Autrement dit, au moment où tu confesses avec la décision d'abandonner ce péché, instantanément, le sang de Jésus te purifie et te rend plus blanc que la neige. Alléluia. Et la communion est rétablie avec Dieu. Il n'y a qu'une chose qui brise la communion entre Dieu et nous, c'est le péché, mes amis, ou ce sentiment de culpabilité. C'est pourquoi nous devons apprendre à le faire régulièrement, à maintenir cette communion avec lui continuellement. Sinon, il n'y a pas de vie de victoire. Sinon, nous perdons notre joie, mes amis. Nous perdons notre joie. Et le diable veut nous dire, tu as péché, tu es fichu maintenant. Et combien de chrétiens ne savent pas comment résister au diable ? Un jour, le diable est venu vers Martin Luther, le réformateur. Et il est venu avec... Je ne sais pas si c'était dans un songe. Il est venu avec une liste de péchés. Et il lui a dit, Martin, voilà tous les péchés que tu as commis. Et Martin Luther a regardé cette liste. Il a tout regardé, effectivement, c'était tous des péchés qu'il avait commis. Hein ? Est-ce que tu peux dire non à cela ? C'est vrai, je ne peux pas dire non. C'est vrai. Ah, il était content. Tu as péché, Martin Luther. Alors, attends un petit peu, il est revenu avec une deuxième liste. Il est parti, une deuxième liste. Et il y en avait plein, hein ? et c'était bien rempli. Liboire ici. Effectivement, il n'y avait rien de faux. C'était tout ce qu'il avait commis. Il a dit, voilà Martin, tu es un pécheur. Comment veux-tu que Dieu te pardonne? Qu'est-ce que tu fais d'hypocrite comme cela devant les hommes et devant Dieu? Mais Martin Luther savait comment parler au diable. Il lui a dit, Satan, c'est bien, tout cela est vrai, c'est vrai. Mais tu as oublié une chose. C'est que le sang de Jésus m'a purifié de tous ses péchés. J'ai confessé mes péchés, 1 Jean 1,7. J'ai confessé tous ses péchés. Je les ai abandonnés, le sang de Jésus m'a tout purifié. Instantanément, le diable est parti comme un éclair. Instantanément. J'ai l'impression que c'était comme l'effet d'une bombe atomique sur sa tête. Boum! Terminé. Terminé! Voilà comment nous devons réagir lorsque l'ennemi nous attaque. Amen. C'est pourquoi il faut vivre constamment dans la lumière, mes amis. C'est cela. Et c'est comme une seconde nature en nous. Lorsque nous avons fait quelque chose qui déplaît à Dieu, tout de suite, Seigneur pardonne, Seigneur purifie. Et nous devons être de plus en plus sensibles à cela. Malheureusement, il y a certains chrétiens, on peut être chrétien, et puis encore faire du mal sans s'en rendre compte aux autres. Être inconscient du mal qu'on peut faire aux autres. Mais quand vraiment on marche constamment dans la lumière, alors il y a une grande sensibilité qui est là. Pas susceptibilité, attention, la susceptibilité c'est autre chose. Sensibilité. Seigneur, purifie, parce que j'ai fait ceci et cela qui t'a déplu. La susceptibilité, c'est l'inverse. La sensibilité, c'est vous réalisez le mal que vous avez fait aux autres. Et la susceptibilité, c'est vous êtes trop conscient du mal que les autres vous font. Ah, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Ça, c'est de la susceptibilité, c'est plus de la sensibilité. Ben, alors, bien sûr, si on est trop susceptible, tout le monde nous fait quelque chose. Le moindre geste, le moindre regard, ça y est, on s'en sort plus. Ce n'est plus de la susceptibilité, de la sensibilité, c'est de la susceptibilité. Et quelqu'un qui est susceptible, c'est quelqu'un qui est malheureux, qui ne s'en sortira pas. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. On est encore sur la terre, vous êtes d'accord avec moi? Mais la sensibilité, c'est... Parce que celui qui est susceptible, il n'est pas sensible, bien souvent. On pense qu'il est sensible, mais il n'est pas sensible. Il est sensible au mal que les autres lui font. Mais lui, il fait du mal aux autres, il ne s'en rend pas compte. Comment, moi, je fais ça? Pauvre. Mais toi, j'ai vu ce que tu m'as fait. Ah, je l'ai vu. Et ça a commencé il y a 10 mois. Et puis d'autres diront, ça fait 10 ans que ça dure. Regardez-moi ça. Ah, ils savent dans les moindres détails, vous voyez. Oui, 10 ans. Et je me souviens, c'était tel soir, à telle heure, à tel endroit. Ils se rappellent tout ce que les autres leur ont fait comme mal. Mais eux, et toi, tu n'as pas fait ça? Rien du tout, moi j'ai rien. Et incapable de voir le mal qu'ils font aux autres. Nous devons grandir dans cette sensibilité. Et je crois que là, il y a une vérité très importante. Que le Seigneur nous aide, mes amis. Que la moindre pensée, le moindre geste, constamment, soit placé sous le sang de Christ. Et c'est ainsi que nous vivrons une vie chrétienne victorieuse. Et que l'ennemi ne pourra pas nous arrêter. Alléluia! Que chacun s'éprouve soi-même. Être en règle avec Dieu et en règle avec son frère et sa sœur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Que chacun s'attende. Attendez-vous les uns les autres. Voyez-vous, dans la Sainte Cène, il y a donc aussi cette pensée. Seigneur, je veille à ma relation avec toi. Mais je veille aussi à ma relation avec mon frère et avec ma sœur. Je veille à cela. Et c'est pourquoi, quand nous savons, vous savez qu'il y a quelque chose entre vous et un autre frère, vous savez qu'il y a quelque chose, et que vous prenez la Sainte Cène malgré cela, alors on prend la Sainte Cène indignement. Maintenant, il peut y avoir, bien sûr, dans une communauté, on peut avoir eu quelque chose en pensée contre l'un et contre l'autre, l'autre n'est pas au courant. C'est l'ennemi qui met des pensées comme ça. Et puis nous-mêmes, peut-être, on a eu des mauvaises pensées. Alors là, bien sûr, il n'est pas question d'aller courir vers son frère ou sa soeur, sinon on courait du matin au soir et du soir au matin. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on a tous eu des mauvaises pensées, l'un à l'égard de l'autre. Mais ça ne veut pas dire que vraiment on en veut à l'autre. Mais que dès qu'il y a ça, tout de suite, on demande pardon. Ce dont il est question ici, c'est quand l'autre est au courant. Quelque chose s'est passé. Vous le savez et l'autre le sait. L'autre le sait aussi. Je dis bien, les deux le savent. Et quand les deux le savent, et qu'on prend malgré tout la Sainte-Seine, alors là, on prend la Sainte-Seine indignement. Indignement. Et vous savez, c'est en Afrique que j'ai appris cette leçon. Quand nous étions à Carnot, au Centrafrique, c'était les premiers jours de notre mission en Afrique. Nous étions missionnaires tout frais. Et un jour, nous sommes allés en brousse. Un missionnaire nous a conduits en brousse. Et c'était le dimanche matin, je m'en souviendrai tout le temps. C'était le moment de la Sainte-Seine. Et d'un seul coup, au moment où on allait prendre la Sainte-Seine, c'était sous une hutte comme ça, une case, il faisait une chaleur torride là-dessous. Voilà, on grillait tous là-dessous. Et d'un seul coup, au moment où on allait prendre la Sainte-Seine, plusieurs frères et sœurs qui étaient là, tout, d'un seul coup, ont disparu. J'ai dit aux missionnaires, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est pas le moment de partir, on va prendre la Sainte-Seine. Qu'est-ce qu'ils font? C'est pas maintenant qu'ils vont partir, c'est après. Ils sont si pressés que ça. Il a dit, tais-toi. Ils sont allés dehors pour se réconcilier. J'ai dit, excuse-moi, parce que j'ai encore trop parlé. J'ai dit, pardon. Ah, d'accord. Et effectivement, ils sont partis, et je les voyais dehors. Ils s'embrassaient, et ils revenaient prendre la Sainte-Seine, dignement. C'est la leçon que j'ai apprise là-bas, mes amis. C'est la leçon que j'ai apprise. Ils avaient compris quelque chose que beaucoup de chrétiens européens n'ont pas encore compris. Parce que nous, si, sans nous en rendre compte, on peut prendre la Sainte-Seine indignement. Par orgueil, nous ne voulons pas reconnaître qu'il y a quelque chose. Et nous prenons la Sainte-Seine indignement. Et c'est ainsi que nous pouvons nous attirer un jugement sur nous-mêmes. Et loin d'être bénis, au contraire, c'est le contraire qui arrive. Mes amis, c'est pourquoi lorsque nous prenons la Sainte-Seine est un moyen pour regarder en nous. Et aussi autour de nous, justement. Autour de nous, c'est ce troisième point. Le troisième point autour de nous, considérez mon frère et ma sœur. Amen. Là, je vous ai médité le troisième point, sans le nommer. C'est donc veiller à la communion, à la réconciliation avec son frère et sa sœur. Ça, c'est le troisième regard. Regardez autour de nous. Autour de nous. Autour de nous. Nous ne pouvons pas prendre la Sainte-Seine comme ça, isolément, et dire, oh, les autres, bon, ben, je m'en occupe pas. Ça n'existe pas. Nous sommes un seul corps. Nous sommes un seul corps. Nous ne pouvons pas ignorer l'autre. Alors voyez-vous, chaque fois que nous prenons la Sainte-Seine dignement, il y a une unité spirituelle qui se manifeste au milieu de nous. Amen. Et cette unité spirituelle est vraiment la clé de la bénédiction. Lisez les Actes des Apôtres. Il y avait cette profonde unité spirituelle. Ils étaient unis. Et quand il y avait cette profonde unité, l'Esprit de Dieu agissait avec puissance. Laissez-moi dire une chose, mes amis. Ce que le diable attaquera le plus au milieu de nous et dans toute église, c'est cet esprit d'unité parmi les frères et sœurs qui se rassemblent. C'est cet esprit d'unité. C'est là qu'il attaquera le plus. Et c'est pourquoi, mes amis, c'est là que vous devez, que je dois veiller le plus. Car il sait qu'à partir du moment où il n'y a plus réellement cette unité au milieu de nous, alors le diable, il peut faire ce qu'il veut au milieu de nous. Il y a toutes sortes de mauvaises choses qui peuvent se passer. L'esprit est attristé. Et nous prenons la Sainte-Seine indignement. Voyez-vous, prendre la Sainte-Seine dignement, c'est vraiment un moyen de purification, de communion, d'union profonde entre nous. Alléluia! Autrement dit, chaque fois que nous prenons la Sainte-Seine, nous devrions nous sentir plus unis les uns aux autres. Amen. Si tu ne te sens pas plus uni à ton frère et à ta sœur, tu as pris la Sainte-Seine indignement. Parce que lorsque je prends la Sainte-Seine, je regarde derrière moi, en moi et autour de moi. Je peux regarder mon frère et ma sœur dans les yeux et je peux lui dire « Je t'aime au nom de Jésus ». Amen. Quand un chrétien ne peut pas regarder son frère ou sa sœur dans les yeux, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment ça va? Ça va bien? Tu vas bien? Oui, très bien, très bien. Un chrétien qui ne peut pas regarder son frère et sa sœur dans les yeux a mauvaise conscience. A mauvaise conscience. C'est un très bon moyen, ça. Est-ce que tu peux regarder ton frère et ta sœur dans les yeux et lui dire sincèrement, je t'aime. Sincèrement, je t'aime au nom de Jésus. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Alléluia. Et c'est cela, la Sainte Cène. C'est pourquoi, vous comprenez, que nous pouvons prendre cette Sainte Cène mécaniquement et ne pas penser à ces choses. Après, on se dit, oh, ben, c'était pas béni, ou je ne sais pas, c'était pas... On en a pas retiré la bénédiction qu'il fallait. Pourtant, l'Esprit de Dieu était là. Et soi-même, on n'a pas ressenti sa présence. Moi, c'est ce qui me surprend bien souvent. C'est que quand l'Esprit de Dieu est là, et que certains sortent de la réunion et disent, ah, je n'ai rien senti. Alors que la présence de Dieu était là. Manifeste, tangible. C'est là que je remarque que la personne elle-même, donc, n'était pas... Elle est présente de corps, oui, comme il a été dit, mais elle est absente d'esprit. Présente de corps, mais l'esprit n'est pas là. L'esprit de Dieu est à l'œuvre. Et puis, on n'en retire aucune bénédiction. C'est un très mauvais signe, mes amis. Très mauvais signe. Et la Sainte Cène est là pour remédier à cela. Pour remédier à cela. Amen. Chaque fois que je prends la Sainte Cène, je dois pouvoir regarder mon frère et ma soeur dans les yeux. Si j'ai eu des mauvaises pensées, alors je lui pardonne. Mais si je sais qu'il y a eu quelque chose entre nous, je vais le voir. Et je dis, frère, soeur, je te pardonne, je te demande pardon. Comme ces chers Africains. Et revenons ensuite prendre la Sainte Cène. Quelle bénédiction. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et je termine. Un regard devant nous. Devant nous. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus revient bientôt. Soyons prêts. Quelle joie de le revoir. Autrement dit, chaque fois que nous prenons la Sainte Cène, c'est comme si nous disions au Seigneur, « Seigneur, je suis prêt. Avec toi, je suis en règle. Je suis en règle avec mes frères et mes sœurs. Tu peux venir maintenant s'il le fallait. » Alléluia. C'est cela, chaque fois que vous prenez la Sainte Cène, c'est cela que vous confessez. Seigneur, j'ai mis ma vie en règle avec toi, avec mes frères et sœurs. Et maintenant, tu peux venir maintenant s'il le faut. Tu peux venir, viens Seigneur. C'est pourquoi la Sainte Cène est une confession que Jésus revient bientôt. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur, quelle joie de te revoir. Viens, Maranatha, viens Seigneur Jésus. C'est pourquoi le moment de Sainte Cène est aussi un moment de joie. C'est aussi un moment solennel, n'est-ce pas? Où on sait tout ce que Jésus a fait pour nous, a souffert pour nous. Mais avec cela, il y a aussi un moment de joie. Parce que nos regards ne sont pas seulement sur la croix, mais sur le trône, la résurrection, la gloire de Dieu. Nous allons bientôt le revoir. Alléluia! Et comme il a été dit, il ne reviendra pas pour mourir. Il l'a fait une fois pour toutes. Il reviendra pour régner. Il reviendra pour enlever ses enfants, dont la vie a été entièrement consacrée à lui. Et qui ont pardonné, qui ont aimé, qui ont veillé à aimer leurs frères et sœurs jusqu'à la fin. Alléluia! Le regard devant nous. Seigneur, viens bientôt. Quelle joie de te revoir. Je t'attends. Et chaque fois que nous prenons la Sainte Cène, c'est une confession dans ce sens-là. Je suis prêt, Seigneur. Je me réjouis de te revoir et de partir avec mes frères et sœurs à ta rencontre. Alléluia! Amen! Oh, gloire à Dieu! Quelle bénédiction lorsque nous prenons la Sainte Cène comme cela. Rappelez-vous bien de ces quatre regards. Un regard derrière soi, en soi, autour de soi et devant soi. Alléluia, il revient bientôt. Il revient bientôt. Levons les yeux. Ne nous laissons pas décourager. Les ténèbres iront en grandissant. Mais pour le chrétien, c'est la lumière qui va en grandissant. Amen. C'est la lumière, c'est la lumière. Ne regardons pas autour de nous. Le monde va à sa perte. Mais l'Église va vers le jour de son couronnement. L'époux nous attend. Les noces sont prêtes. Alléluia. Préparons-nous pour aller à sa rencontre. Il revient bientôt. Gloire au Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Il a hâte de nous revoir. Non seulement nous avons hâte de le voir, mais lui, il a hâte de nous revoir. Et je voudrais tant les avoir autour de moi. Sais-tu que le Seigneur voudrait tant t'avoir auprès de lui? Il veut te serrer dans ses bras et il veut te dire, mon enfant, je t'aime, je t'aime. J'ai attendu ce jour, j'ai attendu ce jour, si tu savais comme je t'aime. Alléluia. Il attend de nous voir. Nous attendons de le voir. C'est cela la Sainte Cène, c'est une relation d'amour, une attente dans l'amour, dans une espérance glorieuse. Alléluia! C'est pourquoi ne nous laissons point décourager, nous aurons des tribulations dans le monde, mais prenons courage. Jésus a vaincu le monde et il nous dit, puisque j'ai vaincu, tu peux vaincre avec moi. Alléluia! Ma victoire est la tienne désormais, ne te décourage point, ce que j'ai commencé en toi, je l'achèverai. Marche dans la lumière, marche dans l'amour, marche dans le pardon. Et la joie du Seigneur sera ton partage et une vie chrétienne victorieuse se manifestera en toi et au travers de toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Oh, alléluia. Seigneur Jésus, tu reviens bientôt. Et si tu revenais maintenant, Seigneur, serions-nous prêts? C'est la question que tu nous poses, Seigneur. Et nous voulons tous pouvoir dire, oui, Seigneur, je suis prêt. Parce que j'ai mis ma vie en règle avec toi. Et avec mes frères et sœurs, avec mon prochain. J'ai mis ma vie en règle. Tu peux venir, Seigneur. Quelle bénédiction la Sainte Cène devient alors, Seigneur. Quelle bénédiction, quelle purification, quelle sanctification. Quelle communion, quelle espérance, quelle joie. Garde-nous ainsi, Seigneur, fidèles, et garde-nous toujours. Garde ces vérités, ces quatre vérités, toujours plus précieuses dans nos cœurs, Seigneur, afin que nous ne prenions pas la Sainte Cène indignement, mais toujours d'une manière qui te glorifie. Qu'il en soit ainsi. Pour ta seule gloire, pour le bien de ton Église et pour notre témoignage ici-bas. Afin que nous puissions, Seigneur, non pas partir seuls au ciel, mais à partir avec beaucoup d'âmes, Seigneur. Beaucoup d'âmes, et nous voulons en attirer beaucoup, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Et que par notre joie, notre consécration, nous puissions montrer aux autres que nous t'aimons et que nous nous aimons les uns les autres. Prends nos vies. Et transforme-les à ton image pour la gloire de ton nom. Amen.